BW. Vue d'Allemagne.
Einführung einer CO2-Steuer.
Einer CO2-Steuer und wir haben
zur CO2-Steuer.
Wir reden über die CO2-Steuer.
Die Idee eines CO2-Preises.
Oder auch CO2-Abgabe.
Das muss man nicht alles über
eine CO2-Steuer. Eine CO2-Steuer, ein Impost sur le CO2, Télé, Radio, Parlement, Réseaux sociaux. Le sujet fait débat en Allemagne en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que cet impôt sur les CO2? Ça veut dire quoi? Ça coûterait quoi? Ça concernerait qui d'ailleurs? On en parle dans un instant. Et puis juste après, direction l'Espagne, où le fantôme du dictateur Franco plane toujours au-dessus du pays. Les habitants se déchirent sur son exhumation prochaine. Reportage à suivre dans la seconde partie de ce magazine. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Guten Tag, bonjour, willkommen, bienvenue à toutes et à tous. Los geht's, c'est parti. Après la sécheresse il y a 15 jours, c'est donc un thème environnement de retour dans Vue d'Allemagne cette semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'il a plu un peu depuis notre émission sur le manque d'eau dans tout le pays il y a 15 jours. Mais pas assez quand même, le mois d'avril 2019 a d'ailleurs été plus sec que celui de 2018, année de sécheresse dans tout le pays. Affaire à suivre donc, on craint toujours ici un été très très chaud. En attendant, on parle donc CO2, ce gaz nocif pour la planète émis par nos usines, nos voitures ou encore nos chauffages. Pour réduire ces émissions, l'Allemagne envisage de taxer plus ceux qui en émettent. Ça entre en fait dans une réflexion, un projet à long terme. Le gouvernement allemand s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2020 par rapport aux chiffres de 1990. Réduction prévue même de 80 à 95% d'ici 2050. Il faut donc prendre des mesures dès aujourd'hui. Et on en parle en ce moment déjà donc avec cet impôt, cette taxe sur le CO2, le fameux CO2-Steuer. Une réunion gouvernementale sur le sujet est prévue déjà pour le mois de juillet. Et tout cela entre dans le débat autour d'une nouvelle loi pour le climat prévue pour la fin de l'année 2019, au mois de décembre. Et en plus, à la fin de ce mois, déjà en mai, il y a aussi des élections européennes. Le débat a donc pris de l'ampleur ces derniers jours. Il est l'occasion pour tout le monde d'afficher ses positions en matière d'environnement. Alors pour comprendre, qu'est-ce que c'est d'abord cet impôt? Qu'est-ce que ça serait? Pour faire simple, ce serait une taxe sur tout ce qui produit du CO2. Vous achetez de l'essence, il y a une taxe en plus. Vous achetez du fioul ou du gaz pour votre chauffage, il est plus taxé qu'avant. Le gouvernement cherche finalement des solutions pour réduire la production de CO2 pour atteindre ses objectifs pris lors des conférences mondiales sur le climat au fil des ans. C'est ce qu'explique Gabriel Haufe, le porte-parole du ministère fédéral de l'Environnement fédéral en Allemagne.
Tout d'abord, nous devons trouver un moyen de réduire le dioxyde de carbone et les autres gaz à effet de serre. Cela est bien sûr possible grâce au prix, comme nous le savons très bien grâce à l'expérience avec le système communautaire d'échange de quotas d'émissions.
Ce système dont parle Gabriel Haufe est un système européen pour réduire le CO2 mis en place déjà en 2005. Mais il ne concerne que les entreprises aujourd'hui. Tout ont droit à un certain nombre de tonnes de CO2 par an. Celles qui dépassent ces quotas auxquels elles ont droit doivent acheter d'autres droits et donc payer. Celles qui produisent moins de CO2 que prévu peuvent revendre une partie de leurs droits à d'autres et donc gagner de l'argent. Aujourd'hui, le nouvel impôt sur le CO2 dont on parle en Allemagne serait étendu à tout le monde dans le pays. Impôt sur l'essence, le fioul de chauffage, le charbon. On calculerait combien une activité ou la production d'un produit nécessite de tonnes de CO2 et on ajouterait le prix de cette tonne de CO2 à l'activité ou au prix du produit vendu. Reste à fixer le prix de la tonne. En Allemagne, le magazine Spiegel a calculé le surcoût de produits et de services si le prix de cette tonne était fixé à 180 €, pour essayer de donner une idée un petit peu à tout le monde, ce qui nous donnerait plus de 43 centimes pour un litre d'essence, plus 317 € d'électricité pour un couple avec un enfant chaque année, plus 4 centimes pour un kilo de pommes de terre, 2 € pour un t-shirt ou encore plus de 650 € en plus par rapport à aujourd'hui pour un vol entre Düsseldorf en Allemagne et New York aux États-Unis. C'est beaucoup, mais les calculs ont donc été faits à 180 € le prix de la tonne de CO2. On évoque aujourd'hui en Allemagne dans les débats un impôt éventuel à 30 €, c'est donc beaucoup moins, voire 50 €, rien n'est fixé finalement. Die Grünen, les Verts en Allemagne favorables à la mesure, proposent de fixer un prix à au moins
40 euros, comme l'explique Ska Keller, tête de liste des Verts en Allemagne pour les élections européennes.
La science nous dit qu'un prix du CO2 à partir de 40 euros la tonne a vraiment un effet d'entraînement. Parce que l'avantage de fixer un prix du CO2, c'est que cela crée des incitations. Il vaut alors la peine pour les entreprises de passer à des technologies respectueuses du climat, ce qui n'est pas le cas si les droits de pollution sont bon marché. Pour nous cependant, il est également important que le prix du CO2 soit ensuite remboursé à tous les citoyens européens. L'Allemagne peut ainsi commencer à créer la justice sociale. Et parce que ce sont les personnes à faible revenu qui émettent généralement beaucoup moins de CO2, elles auront un compte positif. Et ceux qui partent beaucoup en vacances, en avion par exemple, paieront plus.
Outre le prix de cette taxe, Ska Keller touche là un point important également, celui des impacts différents pour les citoyens. Certains mettent en avant que cette taxe ne touchera que les plus bas revenus. Si je dois donner 50 euros de plus par mois et gagne 1000 euros, ou si je dois donner la même somme mais gagne 2000 euros, cette taxe aura proportionnellement un impact plus important pour les bas revenus. S'il est mis en place, donc, cet impôt, comme le souhaite une partie des sociodémocrates du SPD qui gouverne avec Angela Merkel, cet impôt doit donc comporter une partie redistribution. C'est ce que dit le SPD, que les plus pauvres ou ceux qui sont contraints à polluer sans pouvoir faire autrement parce qu'ils ont besoin de leur voiture pour travailler, par exemple, eh bien que eux ne soient pas pénalisés. C'est ce qu'explique Carsten Träger, député du SPD en Bavière.
Pour nous, sociodémocrates, il est important que ce prix du CO2 ne soit pas une source supplémentaire de revenus. Nous ne voulons pas imposer de charges supplémentaires aux revenus moyens et faibles. Cela signifie que nous allégerons la charge qui pèse sur les consommateurs ailleurs.
Sous-entendu, il faudrait baisser d'autres impôts ou donc redistribuer l'argent collecté aux plus modestes. Du côté de la CSU, CDU, d'Angela Merkel, on est divisé sur la question. Certains dans son camp sont favorables à l'idée, d'autres non, et ça provoque de nombreux débats en ce moment, comme Manfred Weber, tête de liste CDU aux élections européennes, qui se dit lui contre cette idée.
Je suis moi-même ingénieur. J'ai étudié les moyens techniques de protection de l'environnement et je crois aux solutions technologiques. Je ne crois pas aux nouvelles taxes comme celles dont nous discutons actuellement en Allemagne parce que, en fin de compte, il faut toujours voir qui est concerné par ces taxes. Il ne s'agit pas d'une taxe abstraite sur le CO2. Nous parlons d'augmenter la taxe sur l'essence, la conduite automobile coûterait donc de plus en plus cher, devrait donc payer avant tout ceux qui sont moins riches dans la société. Je crois en l'innovation, je ne veux pas l'interdire via la loi, mais je veux mettre en place des incitations, comme nous le faisons déjà pour les voitures électriques, pour que les gens puissent passer à des voitures écologiques. Nous avons également montré que nous sommes assez intelligents pour avoir des ingénieurs qui peuvent développer de nouvelles technologies pour produire de l'énergie sans CO2 dans le domaine de la production d'énergie à partir de l'énergie éolienne et photovoltaïque. Par conséquent, notre façon de faire est de procéder à la révolution technologique pour y promouvoir la recherche et non pour punir les plus faibles de la société parce qu'ils n'en ont pas les moyens.
D'autres dans le parti se disent favorables à un système de taxes au niveau européen pour ne pas pénaliser les citoyens ou les entreprises allemandes vis-à-vis des citoyens ou des entreprises d'autres pays du continent. C'est le cas du vice-président du groupe parlementaire CDU-CSU au Bundestag, Carsten Linnemann.
Avec une taxe sur le CO2, je n'aurai pas l'adhésion des citoyens. C'est une vieille méthode. La politique augmente les impôts et si l'objectif n'est pas atteint, il suffit d'augmenter à nouveau les impôts. Cela doit cesser. Nous devrions plutôt étendre l'échange de droits d'émission au niveau européen.
Mais tout cela semble aujourd'hui très compliqué, pourrait prendre des années pour sa mise en place, alors qu'il faut agir vite, disent les spécialistes, qui proposent donc de commencer au niveau national avant d'étendre l'idée au niveau européen. Sur le continent, la Suisse a déjà un tel système. La France devait aussi mettre en place de nouvelles taxes sur le carburant tout récemment. C'est ce qui a en partie déclenché la crise des gilets jaunes sur place qui dure depuis des mois maintenant. Comme quoi le sujet est brûlant en Allemagne et chez ses voisins. On en saura plus, en tout cas à Berlin, normalement d'ici la fin de l'année.
Heidi ho, ihr Vollspacken. Hier ist nochmal Gerd. Genau, Gerd das Groschengrab. Übrigens, Steuerpolitik ist ab sofort Scheffelsache. Hundesteuer, Tabaksteuer.
Taxe sur les chiens, taxe sur le tabac, véhicules, écotaxe. Vous pensiez vraiment qu'il n'y en aurait pas d'autres? Chanson humoristique du garde chaud de Elmar Brand, comique allemand. Chanson de 2002 où il se moque du chancelier de l'époque. Ce n'était pas Angela Merkel, mais Gerhard Schröder. Et il évoque donc les impôts dans cette chanson. Chanson qui aura un réel succès à l'époque en Allemagne.
Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Ich greife euch tief in die Tasche. Jeder von euch Spackus bunkert irgendwo noch Asche. Und die hole ich mir, die finde ich schon egal, wo sie liegt. Ich ziehe euch aus, yeah, ihr Flaschen. Ihr werdet euch noch wundern.
Vue d'Allemagne, deuxième partie de ce magazine, partie internationale. Et on part en Espagne avec le fantôme de Franco qui plane toujours au-dessus du pays. Franco, c'est le chef de l'État et dictateur entre 1939 et 1975 en Espagne, dont le régime a fait des milliers de victimes sur place. Franco est mort en 1975 et il est aujourd'hui enterré dans une tombe officielle dans le mausolée du Valle de los Caídos près de Madrid. Le gouvernement socialiste a décidé que ce ne serait plus le cas dès le mois de juin. Le 10 juin, son corps sera exhumé pour être enterré dans un lieu privé et lui retirer donc son importance. Une exhumation réclamée depuis longtemps par les familles de victimes du franquisme. Et pourtant, elle divise l'opinion et a même réveillé les nostalgiques du régime. Reportage sur place de Henri Delaguéry.
Une croix de 150 mètres de haut, une basilique creusée dans la roche par des prisonniers politiques, le Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, est l'un des symboles de la dictature. Ce gigantesque mausolée abrite la tombe de Franco. 43 ans après sa mort et la fin du régime, des nostalgiques comme Gonzalo continuent de venir honorer sa mémoire.
Je rends hommage au général Franco, à l'homacier de tout ce qu'il a fait pour l'Espagne. Il nous a sauvés du communisme, il a créé la classe moyenne. C'est un régime autoritaire, tout comme celui du roi Louis XIV ou de Napoléon, mais ce n'était pas une dictature.
C'est sans doute la dernière fois que Gonzalo se rend au Valle de los Caídos. La dépouille sera transférée le 10 juin prochain dans un cimetière au nord de Madrid où est enterrée son épouse. Pour le gouvernement de gauche, le caudillo ne doit plus être honoré dans un lieu public, une décision qui s'est heurtée à l'opposition de ses héritiers, dont Francis Franco, l'un des petits-fils du dictateur.
Ils veulent humilier mon grand-père 43 ans après sa mort. C'est en fait un écran de fumée, une manœuvre pour masquer les véritables problèmes dont souffre le pays. Et puis, plus personne ne se préoccupait de savoir où était enterré mon grand-père. Les gens qui ont fait la guerre ou qui ont subi son régime sont tous morts.
Tous morts sûrement pas, Carlos Vallejo a 68 ans, ouvrier chez Seat au début des années 70. Il a été torturé pendant 20 jours dans un commissariat de Barcelone pour avoir tenté de monter un syndicat. 45 ans après, il a toujours du mal à en parler.
C'est les moments plus durs de ma vie, de telle façon que pour moi, aller après de la torture en prison, c'était une libération. C'est une contradiction, mais c'est comme ça. En premier lieu, tu es isolé. Tu es hors le temps, tu ne sais pas si c'est jour, c'est nuit, c'est terrible. C'est terrible, tellement dur les moments de torture. Et à cause de ça, j'ai pris le chemin de l'exil après sortie de prison.
Après quelques années d'exil en France et en Italie, Carlos Vallejo est rentré en Espagne. Depuis, il dénonce les crimes du franquisme et réclame la fermeture du mausolée. Pour lui, comme pour toutes les familles de victimes, ce lieu est une insulte à leur mémoire. Fils de militants anarchistes persécutés sous la dictature, Enrique Urraca a lui aussi connu l'exil. Et quand on lui parle du Valle de los Caídos, il s'étrangle.
J'y ai été quand j'étais enfant. Je ne suis pas retourné, je n'ai rien à faire là-bas. C'est quelque chose que j'aimerais voir disparaître. C'est un endroit de souffrance. Il faut savoir que ça a été construit par des prisonniers républicains espagnols qui étaient des esclaves forcés. Et oui, ça blesse, je dirais, ma conscience. On ne comprendrait pas en Allemagne ou en Italie un mausolée au nom de Hitler ou Mussolini. Et en Espagne, malheureusement, cela existe. Et je crois qu'il faut en finir avec ça.
Même si les vrais nostalgiques du régime sont très minoritaires, l'exhumation est loin de faire l'unanimité. 38% des Espagnols la considèrent inutile. Lors du vote de la loi, la droite et les centristes se sont abstenus au prétexte qu'il ne faut pas rouvrir les blessures du passé. Un argument qui met en colère Enrique Urraca.
Les gens parlent, surtout les gens de droite, parlent d'ouverture, de plaie, etc. Le problème, c'est que la plaie n'est pas fermée depuis de nombreuses années. Et donc pour que ça se finisse, il faut qu'on finisse avec cette histoire de Franco. Il faut que Franco soit exhumé dans un endroit discret pour que sa famille puisse l'honorer s'ils le veulent, mais que ce ne soit pas un lieu de pèlerinage pour venir exalter le fascisme international.
Prévue initialement pour le mois de septembre dernier, l'exhumation a été reportée à de multiples reprises car la famille de Franco a livré une intense bataille juridique. Mais c'est finalement le gouvernement Sanchez, conforté par sa récente victoire électorale, qui a eu le dernier mot. L'exhumation se fera loin des caméras, dans la plus stricte intimité. Madrid, Henri de Laguerie pour la Deutsche Welle.
Reportage étonnant à retrouver sur le site de la DW. Tout est dans le podcast de Vue d'Allemagne. Vous retrouvez aussi les histoires d'impôts sur le CO2 en détail. Pour l'antenne, c'est fini pour nous pour aujourd'hui. Mais restez à l'écoute, les programmes de la DW continuent dans un instant. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Anne Letouzé à cette même place pour un tout nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Alles Gute et à très bientôt. Tschüss.